Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour à tous, aujourd'hui Lecture en tête à tête reçoit Damien Grelier, directeur de la BDM, c'est la Bibliothèque départementale de la Mayenne. Bonjour Damien Grelier.
Bonsoir.
Alors pour préparer l'émission, j'ai été un petit peu embêtée en fait, parce que la BDM, alors on comprend Bibliothèque départementale de la Mayenne, on comprend que c'est le lieu où sont centralisés finalement tous les achats des bibliothèques du département, donc les revues, les livres, les disques, tout ce qu'on trouve en bibliothèque, et puis ils sont ensuite répartis dans les différents lieux du département. Donc déjà on peut imaginer des chiffres assez importants, ça doit être assez colossal. Ça représente à peu près quoi? Juste pour avoir une idée, on va pas en le.
Ah, si on veut des volumes, chiffres, ouais. Si on est simplement sur les volumes de livres ou de collections au sens large, tous les objets culturels finalement qu'on peut avoir à la bibliothèque départementale, on va être en plusieurs centaines de milliers, ouais, dont une partie sur site. On a l'habitude de dire qu'on en a 70 à 90 000 chez nous, en fait. Et le reste répartis dans l'ensemble des bibliothèques du département, mais peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Donc c'est une bibliothèque parmi d'autres en Mayenne. Il y a 130 bibliothèques en Mayenne, 130 à quelque chose près, 130 endroits qu'on qualifie de bibliothèque ou de point lecture où on peut avoir accès à une offre de livres et autre que des livres évidemment. Et dans tous ces lieux, on va avoir une partie des collections des livres que les personnes peuvent emprunter, alors livres, disques, vidéos en partie. Ressources numériques également, une partie importante en fonction de certains lieux même, qui appartient au département et que la bibliothèque départementale met à disposition des bibliothèques publiques.
Alors en fait, voilà, mais en fait, c'est pas que ça, la BDM.
Et c'est vraiment pas que ça.
Ben non, parce que pour le coup, j'ai regardé sur le site pour avoir plus de détails. Et d'ailleurs, j'invite les curieux à le faire parce qu'on pourra pas tout dire là, hein, c'est juste pas possible en fait. Et là, c'est vrai que la grosse surprise, voire j'ai même écrit entre parenthèses sur ma petite fiche angoisse, parce que là, tu te dis, mais comment je vais faire pour synthétiser, bref, tout ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup de choses, la BDM. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ce que c'est que cette grosse machine dans les grandes lignes.
Ah oui, nous, c'est notre travail d'essayer d'expliquer ce qu'on est déjà.
Oui, effectivement, ben oui, c'est vrai.
Mais au-delà de la formule, ça recouvre une réalité qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer à l'origine. Alors, on a commencé par le dire, c'est une bibliothèque, mais c'est une bibliothèque départementale. Donc en fait, ça commence par là. La bibliothèque départementale, c'est un service du conseil départemental. En France, il y a plein de collectivités. Voilà, on parle du millefeuille parfois. Eh bien, les départements mettent en place, entretiennent, animent des bibliothèques départementales. Donc, il y en a une dans chaque département dans ce pays, en dehors peut-être, en dehors d'ailleurs de la toute petite couronne parisienne, puisqu'à l'origine, ces bibliothèques, elles ont été créées juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour permettre aux communes rurales, notamment, c'est vraiment l'origine de leur existence, de bénéficier d'une offre de livres. Donc on est les héritiers des bibliobus qui se promènent dans les territoires, dans les campagnes notamment, et je le dis volontairement de manière un peu florale, parce qu'à l'origine c'est ça. Mais alors c'est plus du tout ça aujourd'hui, en tout cas ça n'est plus que ça aujourd'hui. Donc on a parlé des livres, on a parlé de ce qu'on peut proposer dans les bibliothèques comme contenu culturel, alors livres, disques, etc., hein, tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui on prête des instruments de musique aussi.
Ah oui, aussi, voilà. D'accord.
Ça arrive. Enfin, et c'est en évolution permanente de ce côté-là, ça l'a toujours été. Mais au-delà de ça, c'est d'abord et surtout une bibliothèque qui travaille pour les bibliothèques et les acteurs du livre dans le département. Donc on est là pour accompagner toutes les bibliothèques publiques qui en Mayenne sont toutes organisées en réseau à l'échelle d'une intercommunalité, d'une communauté de communes.
Ouais, vous êtes un peu des facilitateurs finalement.
Alors c'est une partie de notre travail, ouais. On facilite l'accès aux livres, à la lecture et au contenu culturel dans les bibliothèques publiques. Et comment on fait ça? On met à disposition tout ce qu'on s'est dit là.
Oui.
On fait de la formation à destination des professionnels et des bénévoles, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bénévoles en Mayenne.
Oui, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on ne sait pas. Enfin, peut-être que les auditeurs, en fonction de l'endroit où ils vivent, effectivement, en Mayenne, savent que c'est beaucoup de bénévoles, effectivement, qui travaillent aussi dans les bibliothèques et médiathèques.
Et c'est assez particulier à la Mayenne, pour le coup, ça. Enfin, c'est particulier à une partie du pays, et ça ne concerne pas tout le pays. C'est-à-dire, c'est beaucoup dans le nord-ouest, beaucoup dans l'ouest où on est, et un peu dans le centre-sud, si on veut.
Ça s'explique, il y a une raison particulière, historique
Ouais, ça s'explique par le bénévolat associatif qui est très fort ici dans le Nord-Ouest, par les réseaux catholiques même à l'origine, qui ont entretenu une forme de coopération dans les... Je dis volontairement, parce que c'est vraiment le même phénomène également en Vendée, en Maine-et-Loire, un peu moins en Loire-Atlantique, où on a une prégnance de ça à l'origine, d'un bénévolat associatif qui est lié à la pratique culturelle au départ.
Ouais. D'accord,
qui,
et on a quoi d'accord on a...
dans cette communauté-là. Mais vous allez voir d'autres coins du pays où le bénévolat s'est fondé sur d'autres réalités politiques ou associatives. Mais c'est hyper prégnant et on a l'habitude de dire qu'en Mayenne, il y a 1200 bénévoles qui contribuent au fonctionnement des bibliothèques pour environ 150 professionnels.
Ah, c'est chouette, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler du délitement de la vie collective. On en reparlera peut-être après.
Ouais, c'est un vrai sujet.
Ça existe, mais pour le coup, il y a peut-être un peu de résistance
En tout cas, il y a une volonté d'être vraiment au plus proche des habitants, et ça passe aussi par le bénévolat, mais pas que, parce que ça pose tout un tas d'autres questions. Je parlais de formation tout à l'heure. Une de nos missions, c'est la formation des bibliothécaires dans le département. Et parce que bibliothécaire, c'est un métier, n'est-ce pas ? Et donc un métier, ça s'apprend, ça se pratique, ça évolue. Et bah, ça, c'est une des fonctions de la bibliothèque départementale, d'accompagner ces transformations-là. Et puis de mettre en place aussi des animations culturelles, des événements culturels construits avec les bibliothèques et tant d'autres choses.
On va y revenir. Ouais. Alors comment est-ce qu'on devient directeur de la BDM ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours un peu ?
Comment on devient directeur de la BDM ? Alors, je ne sais pas comment on devient directeur d'une bibliothèque départementale de manière générale, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de façons d'y arriver.
Il y a plein de profils, en fait.
Ouais, il y a de plus en plus de profils différents, notamment pour les raisons que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire que c'est beaucoup la réalité du territoire, du département, qui fait l'intérêt du métier, quand même. Enfin, il se trouve que moi, j'ai plutôt un parcours de bibliothécaire tradi,
d'accord.
pour le dire comme ça. J'ai commencé par être bibliothécaire... au ministère de la Défense, c'est rigolo de le dire comme ça, parce que c'est pas forcément intuitif, mais il y a des bibliothèques, notamment à la Marine, où j'ai travaillé pendant 2 ans, tout début de carrière, il y a déjà très très longtemps. Donc c'est une bibliothèque au sein d'un port, en fait, à destination des militaires, mais enfin ça c'est déjà très ancien.
Ouais, pour le coup, c'est sympa, parce que ça permet aussi de voir qu'effectivement, les bibliothèques, c'est vraiment beaucoup
partout.
De choses.
Non mais
en
on
fait.
Est partout, hein. Ça vous le savez pas.
Ouais. ça. Maintenant on le sait.
Voilà. Et après, bibliothécaire dans des réseaux de villes, bibliothécaire... et une arrivée quand même dans les départements. Ça, c'est vraiment à un moment donné, je pense qu'on choisit aussi un centre d'intérêt. Et moi, la question de la ruralité, de l'accès des bibliothèques dans les départements ruraux, ça aussi raconte une partie sans doute du parcours familial derrière ça. Enfin, y a un intérêt très fort, chez moi en tout cas, pour la question du territoire et de la ruralité
vraiment,
et de l'accès...
D'accord.
Les enjeux d'équité, et ça c'est vraiment les départements, je pense, qui le portent aussi.
En regardant un petit peu votre parcours, j'ai vu que vous avez beaucoup travaillé finalement sur des projets d'évolution en fait, des bibliothèques, le devenir des bibliothèques. Et c'est vrai que quand on regarde, on a les traditionnelles bibliothèques, maintenant on voit de plus en plus, on parle plus peut-être de médiathèques, parce que le terme englobe peut-être plus de pratiques. Mmh. Et puis alors, les professionnels parlent de lecture publique. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je suis très premier degré, je me suis dit, la lecture publique, il y a des gens qui lisent dehors. Mais ça peut paraître anecdotique comme remarque, mais est-ce que finalement, ça parle pas aussi de la difficulté de définir un petit peu le lieu ?
On passe notre temps à se raconter et à essayer de se définir, à essayer de trouver les mots les plus justes pour raconter ce qu'on est, sachant qu'on a une
plus, finalement.
Ouais, on a une particularité. Quand même, et de plus en plus, c'est que chaque bibliothèque se définit par le projet qu'elle porte finalement. Alors, il y a des choses qui sont communes à toute bibliothèque, mais on a tendance de plus en plus à penser les bibliothèques non pas uniquement comme des lieux, mais comme des services. C'est-à-dire que la bibliothèque, elle existe partout, elle existe dans les relations que les bibliothécaires entretiennent avec les partenaires, les associations au sein de leur territoire. Elles existent au travers des actions qu'on va parfois mener en dehors des murs de la bibliothèque. Alors c'est dans ce sens-là qu'on va aborder les questions de lecture publique plus que de médiathèque ou de bibliothèque qui renvoient à un support particulier. Alors médiathèque, c'est un mot, puis ça c'est très très français pour le coup. Il y a que les Français qui ont inventé un mot particulier. À chaque fois qu'on mettait à disposition un support à une époque, on le rajoutait. Donc nous, on a fait des discothèques, des vidéothèques, des médiathèques, des grénothèques aujourd'hui. Ben, ça, c'est un peu une particularité de chez nous. Bon, pourquoi
pas. Parce que voilà, on est d'accord, finalement, on trouve dans nos bibliothèques, finalement, les mêmes choses que dans les médiathèques.
Oui, pour moi, ça fait plus de... Ça a été à un moment donné une manière, quand même, de dire les bibliothèques ne sont plus que des lieux du livre, elles sont autre chose. Et à un moment donné, ça a passé, cette transformation, elle est passée par l'évolution des supports qu'on mettait à disposition. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça, en fait. Et la bibliothèque, c'est d'abord le lieu où on se retrouve et où on va partager une vie culturelle, mais alors culturelle au sens très large. L'enjeu, il n'est pas strictement artistique est sur la lecture, il est sur le partage de l'expérience culturelle des uns et des autres. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui dans les bibliothèques plus contemporaines.
C'est vrai que j'allais y venir, effectivement. Je me disais, bibliothèque, oui, pour le coup, ça enferme un petit peu l'usager de la bibliothèque juste dans le rôle de lecteur, alors qu'effectivement, on y fait plein de choses.
Et d'ailleurs, on
ne
parle plus beaucoup de lecteur, en fait. Nous, on a plutôt tendance à parler... d'usager ou même strictement de personne, en fait. On parle de personne.
Oui, parce que c'est vrai qu'usager, c'est un peu moche comme mot, effectivement. C'est pas terrible. En même temps, voilà, c'est...
Après,
personne, c'est tellement...
C'est pas simple.
Voilà, c'est que déjà, le vocabulaire, c'est compliqué. Alors, pour définir les choses, c'est... Ce n'est pas simple. Alors, les auditeurs nombreux de l'émission savent que nous demandons à chaque invité de nous faire la lecture d'un extrait de son choix.
Alors, c'est maintenant. Alors.
Voilà, et en fait, c'est maintenant, voilà. Alors, vous avez choisi de nous lire Emmanuel Carrère, donc un extrait de « D'autres vies que la mienne ». On y va direct.
Nous avons déjeuné ensemble à Vienne, le lendemain de ma longue conversation nocturne avec Patrice. Ensuite, il m'a raccompagné à Rosiers. La première chose qu'il a dite en arrivant, c'est qu'il devait repartir tout de suite. Patrice et lui ne s'étaient pas revus depuis l'enterrement, on sentait entre eux un peu d'embarras, mais j'ai proposé de faire du café et que nous le prenions dehors, sous le catalpa. Où finalement nous avons passé l'après-midi, de plus en plus contents d'être tous les trois ensemble. Je me rappelle deux moments de cet après-midi. Patrice parlait de la façon dont les filles et lui apprennent à vivre sans Juliette. « Elle me porte, disait-il, son énergie me porte, et puis à certains moments elle ne me porte plus. Les nuits sont difficiles. J'ai pensé au début que je n'arriverais jamais à dormir sans elle, j'ai l'impression de la sentir contre moi, mon corps était tellement habitué au sien, et puis je me réveille, elle n'est pas là, et je suis perdu, complètement perdu. » Mais petit à petit, je m'habitue à cette sensation. Je sais qu'avec le temps, elle sera de moins en moins là, qu'il s'écoulera un jour un quart d'heure sans que je pense à elle et puis une heure. J'essaie d'expliquer ça aux petites. Quand je leur dis qu'on a eu de la chance d'être avec elle et de l'avoir aimée et qu'elle nous a aimés, Clara dit que c'est Amélie qui a eu le plus de chance parce que c'est elle qui l'a eu le plus longtemps. Et puis Diane parce qu'elle ne se rend pas bien compte et donc que c'est pour elle, celle du milieu, que c'est le plus dur. Malgré tout, je pense qu'on est dans un bon cycle, tous les quatre. Je pense que ça va aller. Et toi ? Il s'est tourné vers Étienne, que la question a pris au dépourvu. « Quoi, moi ?»« Toi, a repris Patrice, c'est comment pour toi la vie sans Juliette ?» Étienne, par la suite, m'a dit avoir été stupéfait puis bouleversé d'être ainsi placé devant le deuil et par le veuf sur un pied de quasi-égalité. Au fond de lui-même, il trouvait cette place justifiée. Entre parenthèses, note d'Étienne, « Pas tout à fait, je trouvais justifié d'avoir une place. » Ferme la parenthèse. Mais jamais il ne l'aurait revendiqué. Il fallait l'incroyable générosité de Patrice pour la lui reconnaître comme allant de soi. Il a eu un petit rire. Pour moi ? Oh, c'est très simple. Ce qui me manque, c'est de ne plus pouvoir lui parler. C'est très égoïste. Comme d'habitude, je ne pense qu'à moi là-dedans. Et ce que je me dis, c'est que jusqu'à ma mort, il y a des choses que je ne dirai plus à personne. C'est fini. La personne à qui je pouvais les dire sans que ce soit triste n'est plus là.
Merci beaucoup. C'est une très belle lecture. Alors maintenant, je vais vous laisser vous reposer, en fait. On va faire une petite pause musicale, on enchaîne avec Fontaine DC. Ça se dit Fontaine DC ou Fontaine DC ?
Fontaine DC, ouais. Fontaine Dublin City, si je ne me trompe pas.
Ah ouais, d'accord. Donc on ne prononçait pas bien du tout. Et ça s'appelle Too Real.
Thank you. pull the passion loose from youth's ungrateful hands. As it stands, I'm about to make a lot of money. Gold hats in the pan. None can revolution lead with selfish needs aside. As I cry, I'm about to make a lot of money. Gold hats on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter evening settles down. The bruised and beat up open sky. 6 o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy straps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. 6 o'clock, 6 o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? 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 Ungrateful hands. As it stands, I'm about to make a lot of money. Gold caps in the pan. None can revolution lead with selfish needs aside. As I cry, I'm about to make a lot of money. Goes around and around and around. Oh yeah, for ya. It's a career 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 for ya. It's a too real fire. It's a too real fire. It's a too real fire. It's a too real fire.
Toujours en compagnie de Damien Grelier, le directeur de la bibliothèque départementale de la Mayenne. Vous écoutez Lecture en tête à tête sur l'autre radio. Alors, tout à l'heure j'ai fait la naïve, mais Lecture en tête connaît bien la BDM puisque nous sommes partenaires. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En quoi ça consiste votre partie sur un partenariat comme celui-là, avec une association comme la nôtre?
Alors déjà, c'est un compagnonnage de longue date quand même. Alors moi, je suis arrivé sur la Mayenne il y a simplement 2 ans. Il se trouve que je connaissais quand même... et le projet de l'association et les différents événements, les différentes actions que l'association mène. Alors, en tant que professionnel des bibliothèques, parce que j'avais eu l'occasion de venir sur le festival déjà, et l'activité de l'association est assez connue. Alors à quoi on sert finalement, comment on conduit un partenariat comme celui-là? Quand je dis compagnonnage, c'est vraiment ça, parce qu'on apporte, alors oui, un soutien comme on le fait avec nombre de structures culturelles dans le département, mais au-delà de ça, on partage un peu les enjeux du projet, le regard qu'on peut poser sur qu'est-ce que c'est la médiation du livre, qu'est-ce que c'est que la littérature contemporaine aujourd'hui, quel rôle ça peut avoir en termes d'action publique, en fait, qu'est-ce que ça raconte du sens du travail qu'on mène en bibliothèque, finalement. Il y a un enjeu d'ouverture, il y a un enjeu d'accompagnement à l'émergence aussi, une forme... d'art qui n'est pas si simple, qui est comment on rentre en littérature quand on est un jeune auteur. Les bibliothèques, elles ont un rôle autour de ça. Je ne dis pas que c'est leur rôle strictement.
Mmh, ça en fait partie.
C'est un de leurs rôles, je pense, quand même, à un moment donné, d'être une caisse de résonance par rapport à ça, de travailler à cette... on va parler de bibliodiversité, nous, ça en fait partie, quand même. Et puis, il y a aussi la dimension, simplement, au-delà du projet culturel en lui-même, qui est un projet ambitieux, reconnu, qu'on essaye... de défendre, je pense, et de rendre audible aux oreilles des personnes qui, à un moment donné, s'engagent pour défendre les projets associatifs. Et donc ça, je pense que c'est important. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de la place de l'association sur le territoire lui-même. C'est-à-dire, c'est un acteur de la vie, en fait, sociale et culturelle dans cette ville et dans ce département. Et à ce titre-là, nous, on a quelque chose à dire de comment ça, justement, comment ça s'accompagne, comment ça résonne, comment ça peut travailler avec d'autres projets, avec d'autres formes aussi de pratiques culturelles. Et je pense que ça, c'est assez important. Donc, il me semble, si je devais le définir, qu'il y a ça. Il y a un double approche, un peu un soutien un peu institutionnel. Voilà, ça se traduit à un moment par des soutiens financiers. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a d'autres partenaires, heureusement. Et puis par une forme de regard partagé, de capacité à dialoguer ensemble sur ces sujets-là. Et puis on partage certaines actions très concrètes, comme des journées professionnelles parfois. Mmh. Et ça s'inscrit dans la logique de formation aussi du réseau. Voilà, y a l'imprégnation dans le territoire, le soutien institutionnel, et puis la question du regard un peu professionnel aussi. Je pense qu'à un moment donné, quand on est professionnel dans un domaine, là c'est le champ du livre, c'est intéressant de pouvoir en échanger avec d'autres professionnels qui ont un regard un peu distancié. Ça, c'est pas, à mon avis, c'est intéressant de le faire.
C'est ça, en fait. On travaille vraiment tous ensemble. C'est vrai que pour le coup, nous, les portes de la bibliothèque départementale s'ouvrent pour nous, puisqu'on y présente effectivement la saison de l'association, la sélection des premiers romans qui sont finalement, qui se retrouvent disponibles dans les différentes bibliothèques, la présentation du festival. Et puis dans les bibliothèques aussi, on reçoit les auteurs. En début d'année, nous avions invité Joël Kerouanton à investir la bibliothèque Albert Legendre à Laval avec son atelier « Écrire dans la Bible ». C'était un atelier sur 3 jours et c'était un sacré chantier. Le fait d'avoir de telles actions comme ça culturelles en bibliothèque, est-ce que c'est aussi pour attirer un nouveau public ? Et est-ce que c'est, alors on a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais pour rendre plus accessible en fait une offre culturelle qui est encore peut-être trop confidentielle aujourd'hui ?
Alors je sais pas si en tant que tel, c'est pour ça, c'est toujours une grosse question qu'on se pose en tant que bibliothécaire, pourquoi on fait des animations, pourquoi on fait des actions culturelles, est-ce que c'est pour aller conquérir des nouvelles personnes? Alors je le dis avec un peu d'humour, parce qu'en fait c'est souvent aussi un truc qu'on entretient nous-mêmes, parce qu'on dit ça doit être un moyen d'aller chercher des gens. Moi je crois que c'est surtout, ça fait partie de la bibliothèque, elle ressemble, en théorie quand même, hein. Son enjeu, c'est ça, c'est de ressembler à la population qui va la fréquenter, qui va l'habiter et qui va la faire vivre. Proposer des actions culturelles, amener une dimension artistique, quelle que soit sa forme, ça participe de faire vivre justement cet espace qui ressemble aux personnes qui vont y venir. C'est provoquer des espaces d'échange, c'est donner à voir une certaine couleur en fait de ces lieux-là. Et alors oui, ça va peut-être faire venir d'autres personnes qui vont s'intéresser à la bibliothèque pour d'autres raisons que l'emprunt traditionnel de collection, par exemple. Mais est-ce que c'est une fin en soi ? Je dirais pas ça en tant que tel, moi. Je dirais que c'est le rôle de la bibliothèque, c'est d'être encore une fois une caisse de résonance, un espace vivant. Et l'action culturelle, c'est un espace de diffusion, la bibliothèque, hein, comme un autre espace.
Oui, c'est ça, diffusion, démocratisation, peut-être que le terme est un petit peu moche, mais...
Je préfère toujours, moi, parler aujourd'hui de démocratie culturelle, parce qu'encore une fois, la question que de démocratisation... les gens, ils existent par eux-mêmes, en fait. Hein. On n'a pas la culture à démocratiser aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est accueillir l'ensemble de la démocratie culturelle dans les bibliothèques. Ça, ce serait un mantra qui correspondrait plus à la manière dont les bibliothèques se vivent aujourd'hui. C'est-à-dire, sans emprunter à une entreprise de restauration, mais c'est quand même « venez comme vous êtes », normalement.
Il est bien, ce slogan, il faut le dire.
Même si c'est aujourd'hui assez convenu de le dire comme ça, il y a quand même de ça. Notre responsabilité, c'est d'accueillir potentiellement l'ensemble des personnes qui vivent autour de cette bibliothèque. Et pas uniquement, ni nécessairement d'aller transmettre une culture qui est elle-même prédéfinie. Je
sais pas, oui, si et puis alors le côté effectivement, on veut transmettre, ça peut-être c'est un peu condescendant pour le coup.
On essaye de sortir un peu de ça, oui.
Mais c'est quand même l'image qu'on continue d'avoir finalement dans ce milieu-là, le milieu culturel.
Je crois que tout à l'heure, on parlait de transformation, d'évolution des bibliothèques. Ouais. Mais en fait, c'est ça aussi le chemin qu'on essaye de faire aujourd'hui en bibliothèque, en Mayenne comme ailleurs. Hein, mais c'est, et on travaillait sur ça cet après-midi, donc j'en souris, mais c'est de remettre l'humain au centre des enjeux de la bibliothèque avant de se poser la question des services ou des collections qu'on propose. Finalement, la priorité, c'est qui va venir, à qui on s'adresse. On s'adresse, pas à qui on transmet, à qui on s'adresse, avec qui on parle.
Sachant qu'on ne peut pas préjuger non plus de ce qu'on a envie de voir finalement les publics, donc les usagers ou voilà, les personnes.
Mais c'est toute la richesse et la difficulté de nos métiers.
C'est proposé et puis finalement voilà, le visiteur dispose. C'est bête à dire, mais c'est un peu ça.
Tout
finalement.
Se passe dans l'échange, quoi, au maximum. Mais c'est pas simple. Hein, c'est des...
Non, c'est pas simple parce que pour le coup, cette espèce de cloisonnement, parce que dans le fond, même un public qui va être acquis à la culture. On sait que finalement, l'amateur de théâtre, il va au théâtre pour voir des pièces de théâtre. L'amateur d'art, il va au musée ou au centre d'art. Et celui qui aime les livres, il va à la bibliothèque. Mais au final, c'est ça, vous parliez de démocratie culturelle, alors il faut aussi décloisonner les publics. Et la bibliothèque, ça peut être aussi ce lieu-là, en fait, où tous les publics se rencontrent et... Prennent la place qu'ils veulent, quoi.
Ouais, moi, je suis bibliothécaire, alors je suis convaincu par ce fait-là que les bibliothèques, elles s'adressent par essence à toute la population. C'est en ça qu'elles sont démocratiques. On ne sectorise pas les publics, on accueille des personnes, en fait. Et ça, en termes éthiques, c'est déjà un pas en avant. Après, c'est pas simple à mettre en œuvre.
Non, ce que je veux dire, il y a la volonté, mais il faut avoir l'outil, en fait.
Et après, il faut l'outil, et ça se travaille dans le débat aussi, dans l'échange, mais... On choisit pas le public qui va venir à la bibliothèque. Non, alors après, on noircit pas le tableau non plus. Hein. Avant qu'il n'y ait pas de bibliothèque en Mayenne, ça fait 25-30 ans qu'on développe des bibliothèques de manière un peu volontariste en Mayenne. Il y en avait avant, hein, mais on est passé de très peu de monde qui lisait en Mayenne à des fréquentations de bibliothèques qui sont assez importantes. Hein, on peut dire une personne sur cinq quasiment en Mayenne qui est inscrite en bibliothèque, ce qui est important. Hein.
Oui, parce qu'il y a l'inscription, et puis, moi, la première, je suis allée dans des bibliothèques sans m'inscrire, donc bien je sûr. Pense que ça représente aussi une grosse part de la population.
C'est un usage en développement, par ailleurs. Ouais.
Sachant que oui, ce sera peut-être de plus en plus le cas, d'ailleurs, ce qu'on dit, nous, on voit par rapport à l'association, ça peut être, c'est compliqué de s'engager, mais par contre, les personnes ont quand même envie d'aller voir ce qui se passe, il y a une curiosité.
Et il faut accompagner les usages et leur évolution, ce qui est aussi un des rôles, je crois, de la bibliothèque départementale, pour le coup.
Bah oui, parce que ça va avec la formation des bibliothécaires, parce que c'est aussi tout un travail de médiation, effectivement. Comment s'adresser au public pour lui faire, aux personnes en tout cas, pour leur faire...
Replacer l'accueil au centre des préoccupations, l'accueil au sens large, c'est pas uniquement effectivement ouvrir la porte ou conseiller des collections, les bibliothécaires s'engagent au-delà de ça. C'est une question fondamentale aujourd'hui, l'accueil inconditionnel en bibliothèque.
Oui, c'est un gros travail aussi, de formation.
D'évolution, de partage, de débat, parce que tout ça, encore une fois, il n'y a pas une vérité inscrite,
mais
par contre, il y a un enjeu à en échanger, à en débattre et à poser les bibliothèques comme un vrai sujet de société et d'action publique, je crois. C'est notre rôle. Si on devait définir le rôle d'une bibliothèque départementale, j'aurais tendance à commencer par là, d'ailleurs.
Oui, parce que pour le coup, alors là, parce que c'est le sujet, mais tout à l'heure, j'ai évoqué le fameux délitement de la vie collective, même si pour le coup, c'est très caricatural, et puis ça sent un petit peu le « c'était mieux avant hein, », ce genre de formule. Mais est-ce que le travail des bibliothèques, c'est aussi d'entretenir le lien social, parce que avec Internet, effectivement, on a quand même accès à l'information chez soi, on se pose une question, on n'a plus besoin tellement de sortir. Donc c'est aussi inviter chacun à sortir de chez lui, tout simplement, quoi.
Alors l'information, ça s'accompagne aussi. Hein. Accès à l'information, ça ne veut pas forcément dire savoir quoi en faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à beaucoup de médias, mais a-t-on accès à l'information? Ça, c'est une question aussi pour les bibliothèques qui est fondamentale. J'ai perdu le fil de la question d'avant, par contre. Il faudra le couper.
La question, c'était sur l'entretien du lien social,
oui,
en fait.
Oui, pardon. Eh bien oui, ce que je voulais dire par rapport à ça. Les bibliothèques entretiennent le lien social. Ça revient aussi à ce qu'on racontait, nous, tout à l'heure. On travaillait là-dessus au sein de l'équipe et on se disait qu'effectivement, qu'est-ce qui va caractériser les bibliothèques demain, en fait? Qu'est-ce qui va faire leur particularité?
Vous anticipez mes questions. Non, c'est très bien.
Mais parce que c'est ça qui nous préoccupe finalement, c'est le coup d'après. Qu'est-ce qu'on veut concevoir comme bibliothèque? Qu'est-ce qu'on veut accompagner? Eh bien, ce qui ressort dans nos échanges, c'est la question de la relation. Ce qu'on attend d'une bibliothèque, c'est qu'elle mette en relation, c'est qu'elle recrée, qu'elle recrée les conditions de la relation entre les personnes. Et finalement, dans une période où on a beaucoup dit, mais les bibliothèques, enfin, je sors de ça, moi, quand je suis rentré dans le métier, on était là-dedans, tout le monde était en crise en bibliothèque, on va disparaître, parce qu'on était sur l'arrivée d'Internet et le numérique en déploiement massif. Finalement, ce qu'on attend peut-être demain d'une bibliothèque, c'est qu'elle redevienne le lieu de la relation, et même d'une politique culturelle, je pense que c'est ça, qu'elle redevienne un enjeu de relation. Et si on devait garder ça comme mot, moi, ça m'irait assez bien, en fait. Et je suis pas anti-numérique, loin de là, hein, c'est pas le sujet, d'ailleurs.
Non, c'est un outil,
et puis c'est un fait social, donc ça existe. Mais qu'est-ce qui fait que les bibliothèques sont spéciales? Eh ben, c'est des lieux de la relation. La relation avec... d'autres personnes, la relation avec d'autres histoires, la relation avec d'autres parties du monde via les médias qu'on accompagne, mais c'est un enjeu de relation.
Et c'est là aussi, ça fait partie des difficultés, il me semble, parce que tout à l'heure, je parlais de l'atelier de Joël Kerwanton. J'ai dit, voilà, c'était un chantier, un joyeux bazar. On s'est amusé à le dire, même si c'était maîtrisé. Mais il y a quand même ce truc-là de foisonnant, d'un seul coup, dans les bibliothèques. Alors, comment est-ce qu'on répond à ceux qui, finalement, s'en inquiètent, on va dire, les usagers traditionnels, qui regrettent de voir les bibliothèques devenir des lieux de passage, des lieux bruyants. Enfin, ça a toujours été des lieux de passage, mais en tout cas bruyants et d'animation. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, la bibliothèque, c'était un petit peu l'espace... le lieu où finalement on prend son temps, on est dans une espèce de slow culture comme ça, on peut ne rien faire aussi.
Tu peux le rester, hein.
Ouais. Alors, et oui, alors là pour le coup, c'est parce que les bibliothèques sont souvent, et médiathèques, c'est des lieux très ouverts. Genre pour l'atelier de Joël, on a fait du bruit. Quoi.
Ouais, ouais, bah heureusement.
C'était l'objectif aussi, mais ça c'est pas facile aussi de...
Ah, qu'est-ce que ça veut dire très pratiquement, c'est pas très joli, mais d'un point de vue très pratico-pratique plutôt. C'est qu'une bibliothèque, c'est plein de choses, des services, des relations, on l'a dit, mais c'est aussi encore aujourd'hui une question d'espace au sens matériel. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces, par contre ? Et c'est ce qu'on essaye de créer aujourd'hui dans des modèles plus contemporains de bibliothèques. C'est des bibliothèques où on va pouvoir aménager, articuler ce qu'on pourrait appeler des conflits d'usage ou des confrontations d'usage. Et ça, pour le coup, c'est un vrai enjeu professionnel aussi et de compétences pour les bibliothécaires d'accompagner ces transformations, ces réaménagements des espaces pour en faire des lieux qui soient accessibles à différentes personnes dans différentes conditions. Ça joue aussi sur les plages horaires d'ouverture, sur une réflexion sur les rythmes, sur une réflexion sur la place des collections et des services dans la semaine et dans les espaces. Tout ça interroge les lieux en eux-mêmes. On ne construira plus les mêmes bibliothèques demain qu'on construisait de manière un peu systématique il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est normal. Et ça fait partie du métier de bibliothécaire au sens strict, hein, d'accompagner cette transformation des espaces. Donc ça veut aussi dire, par extension, que c'est difficile d'avoir des bibliothèques dans des placards, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut en faire des lieux où les gens viennent et où les gens vivent, eh ben, ça nécessite un petit peu d'aménagement, d'espace et de réflexion sur le lieu d'accueil, encore une fois.
Alors c'est vrai que donc ce qu'on répond finalement à ces usagers inquiets, c'est non pas d'inquiétude, on va travailler pour que vous trouviez toujours votre place, ce sera toujours des lieux relativement tranquilles aussi en fait.
C'est notre enjeu d'essayer d'aller accompagner le maximum d'usage possible.
Il y a aussi la peur finalement que la culture, alors le livre, parce que je sais que effectivement, vous organisez, il y a aussi des expositions, il y a tout un tas de choses dans les bibliothèques, que ça devienne un divertissement aussi. Il y a tout ce curseur qui est difficile à placer quand même.
Et ça renvoie un peu à la hiérarchie qu'on met sur la pratique culturelle potentiellement. Ce qui est un sujet un peu clivant, hein, mais il y aurait des bonnes et des mauvaises pratiques. Or, nous, on prend le parti de ne pas juger a priori les bonnes ou les mauvaises pratiques.
Et je comprends, parce que pour le coup, quand on pose ce genre de questions, on finit par dire des choses finalement terribles en disant on n'a pas envie de tirer vers le bas, mais qu'est-ce que ça veut dire tirer vers le bas, tirer vers le haut, c'est quoi
c'est
en fait
pas mon sujet, ouais. Ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner les parcours culturels dans les espaces des bibliothèques, de faire en sorte, et ça c'est les enjeux d'inclusion, hein, je ne veux pas citer des mots... On ne va pas jouer au bingo des mots des bibliothèques, mais il y a quand même derrière l'idée qu'il y aurait une pratique légitime qui serait la lecture dans un certain secteur avec une certaine forme de littérature, laquelle en plus je serais bien incapable de le dire, parce que je ne m'amuserais pas à essayer de hiérarchiser une littérature par rapport à une autre. On peut en parler pendant des heures, mais ça ne nous donnera pas d'indice sur ce qui est bon ou pas à proposer, à mettre en scène et à médier dans une bibliothèque. Ça ne donnera des indices que sur qui on exclut, en fait. Et donc ça, mais je suis d'accord que c'est un travail qui n'est pas évident, parce qu'on a tous nos représentations différentes aussi. Hein. Moi le premier, évidemment. Hein, mais... Donc il s'agit de s'extraire de ça, et de commencer à réfléchir d'abord par le parcours culturel des personnes, ce que les personnes qui viennent ont à partager, et comment nous, on peut accompagner ce partage par les contenus, les collections, les livres, les animations, les formations qu'on propose en bibliothèque. C'est pas un fait objectif, mais ce serait beaucoup trop simple.
Mais c'est vrai que décomplexer finalement les usagers, c'est vraiment quelque chose à faire par rapport à la culture, le livre, mais pas seulement, l'art contemporain, la danse. Il y a cet aspect-là aussi, pour le dire simplement, en fait. Eh bien voilà, je crois que nous arrivons à la fin de cette émission. Alors j'ai quand même une question, pour le coup, puisqu'on est... part vers ça. Mais alors, elle sera comment est-ce que vous pourriez nous dire comment sera la bibliothèque de demain? Est-ce qu'on peut rêver là?
C'est vraiment amusant. Cet après-midi, on travaillait sur la bibliothèque de 2035.
Ah bah voilà, c'est demain.
On commençait à se poser la question. Ah, elle sera comment? Si je vous donne mon image personnelle, parce que je pense que déjà, elle, encore une fois, elle ne ressemblera pas à la bibliothèque, j'ai envie de dire, du voisin ou de l'autre oui. voisin, etc. Puisque de plus en plus, et c'est finalement ce qui ressortait des échanges, hein, on essaye de définir la bibliothèque par le projet qu'elle porte. C'est-à-dire, à certains endroits, la bibliothèque, elle va être orientée, peut-être, je ne sais pas moi, vers la nature. À un moment donné, elle va être beaucoup plus orientée vers les technologies numériques, peut-être. À un moment donné, elle va investir beaucoup plus les questions d'accessibilité, comment on fait pour avoir une offre et des contenus et des parcours et des actions culturelles qui sont vraiment orientées sur les questions d'accessibilité. Voilà, elle peut... Et surtout, je pense quand même, bon, elle sera volontiers très hybride, la bibliothèque de demain. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on l'a pensée secteur par secteur jusqu'à récemment. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on va la penser beaucoup plus en lien avec d'autres services de la collectivité. Mais ce que j'espère, c'est qu'elle restera, de manière pérenne, un lieu d'action publique et de service public. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est un objet de service public. Et ça, c'est une conviction profonde.
Voilà, ça, c'est la priorité, en fait.
C'est la priorité des priorités.
Et quelle que soit la forme, après, que prendra effectivement la bibliothèque.
Mais considérer qu'une bibliothèque, c'est un enjeu de service public, ça,
c'est déjà...
C'est le fondement de notre métier, ça, je pense.
Donc, nous allons terminer l'émission avec Florent Marchais. C'est le choix de notre invité avec le titre De Justesse. Merci Damien d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et au revoir à tous.
Au revoir.
C'était difficile.
Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. De justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière, les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages, en vitesse. Ne plus rien avaler, et peser sans mal-être, on allait se jeter, mais on ferme la fenêtre, de justesse. Promets-moi mon amour, passer ton tour. Promets-moi mon enfant, de rester vivant. J'y pense tout le temps. Glace pilée, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18. De justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés, parfois on a du bol, dans l'ivresse. Promets-moi mon amour, de passer ton tour. Promets-moi mon enfant, de rester vivant. Promets-moi mon amour.